Pluriel. Une émission réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan au micro de Judaïsme Pluriel pour une heure à passer en votre compagnie, comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h. Ce soir, le sens du toucher. Avec Jean-Marc Emonetti. Pour appréhender son environnement, l'homme dispose de cinq sens, l'homme mais aussi l'animal. La vue, avec son organe l'œil, l'ouïe avec l'oreille, le goût avec la langue, l'odorat avec le nez, et le toucher, dont l'organe est la peau. L'organe le plus important, en tout cas par son étendue, puisque ça fait 2 mètres carrés, je crois, pour un adulte. Le toucher ou tact nous renseigne sur le froid, le chaud, l'aspect rugueux ou lisse d'un tissu ou d'un objet, sa forme, mais il peut aussi générer des sensations fortes, agréables ou désagréables, ou même douloureuses. Il est aussi générateur de plaisir, mais aussi de sentiments dans nos relations avec les êtres humains. Une poignée de main, à côté de l'aspect conventionnel, peut être le foyer d'échanges très intenses. On dit de quelqu'un qu'il a du tact lorsqu'il dégage une finesse, une délicatesse dans ses rapports avec les autres. J'ai d'ailleurs relevé quelques citations que je vous livre. C'est par la peau principalement que nous sommes devenus des êtres aimants. Ou encore, les mains sur la peau touchent l'âme au vif. Ou encore, la caresse recrée l'être qu'elle caresse. Mais comment cela fonctionne-t-il? Comment, du contact au cerveau, l'information se transmet et se traite? Et de quelle manière et avec quelle méthode, quels outils, les chercheurs explorent-ils ce sens? C'est notre invité qui ce soir répondra à ces questions. Merci Jean-Marc Emonetti d'être avec nous ce soir.
Merci à vous pour l'invitation.
Jean-Marc, vous êtes, je vais vous présenter, vous êtes maître de conférence, chercheur au laboratoire de neurosciences intégratives et adaptatives à la faculté Saint-Charles, docteur en neurosciences et spécialiste dans ce domaine qu'est le sens du toucher. Vos recherches portent sur de nombreux contrats, et je vais en donner quelques exemples qui ont attiré mon attention, mais il y en a beaucoup. Conception d'outils pour la stimulation tactile maîtrisée. Ça, c'est assez récent, je crois, 2013-14. Hein,
c'est en cours.
Voilà. Caractéristiques hédoniques du textile. Alors là, dites-nous deux petits mots de ça.
C'était un contrat qu'on a eu avec l'industrie du textile. C'est pas facile de déterminer si un tissu est doux ou pas. Mm-hmm. Et... Il y a des appareils qui existent, s'appellent des tribonomètres, mais ils mesuraient plein de choses sauf la douceur. Et donc les industriels du textile sont venus nous voir en disant, ben, vous enregistrez des récepteurs du toucher, on va vous donner des surfaces plus ou moins douces et on va voir comment vos récepteurs déchargent. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a été amené à travailler sur la douceur des textiles. Ce qu'on a trouvé, c'est que quand on étudie une étoffe, mmh, quand on l'évalue pour l'acheter par exemple, mmh, eh bien on la touche à sens, dans le sens du poil,
oui,
mais on la touche aussi à sens rebousse-poil. Et c'est dans le sens rebousse-poil qu'on a le plus d'informations sur la douceur.
Ah d'accord.
Voilà.
Et ça a porté, ça a eu une importance sur la fabrication de textiles, cette
Ça a eu une importance pour un collaborateur industriel assez inattendu, Renault, le fabricant de voitures.
Oui.
Parce que les gens qui achetaient des voitures trouvaient que leur siège était trop dur au moment de l'achat, pas assez doux. Et Renault a pu développer un système d'évaluation de la douceur automatique, mmh, et donc économiser de l'argent.
Bien, très intéressant. Alors d'autres contrats aussi, caractéristiques mécaniques de la douleur, à partir des critères neurosensoriels et cognitifs, d'évaluation du toucher. Et puis il y en a bien d'autres encore, mais je ne vais pas les citer tous. Et puis vous avez aussi à votre actif une grande liste de publications, des conférences sur des thèmes très pointus, et entre autres, je vais en citer trois ou quatre qui ont retenu mon attention, ma curiosité on va dire. Codage des informations tactiles par les mécanorécepteurs chez l'homme. Ça je pense qu'on va un petit peu en parler tout à l'heure. Neurobiologie des comportements et des émotions. Ça, c'est très intéressant aussi. La mémoire du corps et comment le cerveau commande le geste. Voilà ce que j'ai voulu citer. C'est des conférences auxquelles j'aurais bien aimé assister. Enfin, vous enseignez principalement la sensibilité tactile et la motricité volontaire. Et puis alors, une chose très intéressante, depuis 2006, vous développez en partenariat avec la bibliothèque universitaire de nouvelles méthodes d'enseignement où les étudiants apprennent à utiliser les ressources bibliographiques disponibles en ligne pour découvrir les connaissances et ne plus se contenter de les recevoir passivement. Voilà un enseignement qui pourrait intéresser beaucoup, beaucoup de monde, pas seulement les étudiants, et moi le premier. Alors, dites-nous en deux mots.
J'ai peur que les étudiants en question ne nous écoutent pas à l'instant précis parce qu'ils ont un devoir à rendre justement pour demain.
Ah bon.
Et généralement, ils ont peu de temps pour les faire. Mmh. Non, l'idée, c'est tout simplement qu'on leur donne des petites questions,
oui,
chaque semaine. Par exemple, pourquoi ne sentons-nous pas nos propres chatouilles?
Oui.
Et ils doivent aller rechercher dans des bases de données scientifiques la réponse et citer correctement la réponse. Mmh. Et nous remettre donc des petits rapports écrits qu'on corrige ensuite. Mmh. Et eux, c'est très formateur, mais ça demande aussi beaucoup de travail.
Ah oui, bien sûr, beaucoup de travail. Et les adresses des sites, vous leur donnez ou ils doivent les chercher eux-mêmes?
Non, ils sont formés à la recherche documentaire et ils connaissent toutes les bases de données, ils apprennent à s'en servir. Il faut aussi, du coup, lire un petit peu en anglais et ça, c'est difficile pour eux aussi.
Moi le premier, et pourtant j'ai travaillé quelques années au Canada, mais au Canada français seulement. Alors, voilà. Bon, ensuite, vous avez aussi écrit quelques ouvrages de vulgarisation, et j'en retiens un. Comment ne pas endormir son auditoire en 30 secondes? Alors moi, j'ai passé un long moment avec vous pour la préparation de cette émission. Et je n'ai pas dormi du tout. Hein. D'ailleurs, quand je dis le moment, c'est la montre qui me l'a dit, parce que moi j'ai trouvé le 30 très court. Alors, de quoi parlez-vous là?
Là, vous êtes rude, parce qu'à cette heure tardive, si au bout de 30 secondes, ils changent de fréquence, pour le coup, je les aurais endormis. Non, c'était un guide de la communication orale à destination de collègues ou d'étudiants. Voilà.
Mm-hmm. D'accord. Alors, vous avez aussi une activité de vulgarisation scientifique, et je l'ai lu, donc à la Fête des Sciences à Marseille, et puis aux Agora aussi, et puis aussi au Palais de la Découverte à Paris. C'est bien. Alors, vous êtes vraiment hautement spécialisé dans le domaine dont on va parler, et je crois qu'on va vous écouter avec beaucoup, beaucoup d'attention. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va écouter quelque chose, et c'est un morceau que vous avez choisi. Alors, c'est quoi ?
Erev Shel Shoshanim.
Et pourquoi ?
Parce que ça me rappelle le temps où j'étais dans une chorale, interuniversitaire, dirigé par Michael Minicky, avant la fusion des trois universités. Et c'était un peu notre hymne. On le chantait pratiquement à la fin de tous les concerts.
Ah bon?
Et puis, puisqu'on était sur le thème du toucher, moi je parle pas couramment l'hébreu, mais j'ai la traduction. Mmh. À la fin, c'est « Ta bouche est comme une rose le matin, je l'accueillerai pour moi ». Et la bouche est la zone avec les mains où il y a le plus de récepteurs du toucher. Voilà pourquoi. Oh,
très bien, bravo. Alors on écoute. Écoutez Radio JM, et je vous rappelle que ce soir, avec Jean-Marc et Monettine, nous parlons du sens du toucher. Alors, Jean-Marc, lors de la préparation de cette émission, vous m'avez parlé du rôle essentiel du toucher, en particulier pour l'équilibre des êtres vivants, et vous m'avez parlé de deux expériences importantes qui le montrent. Je vous laisse la parole pour nous en parler.
Alors, dans la jolie présentation que vous avez faite tout à l'heure, vous avez dit effectivement que le toucher, c'était le plus grand organe des sens, avec effectivement près de 2 mètres carrés chez l'homme. Mais c'est aussi le premier sens fonctionnel. La peau et le cerveau proviennent du même tissu, qui est le plus externe, qu'on appelle l'ectoderme. Et donc finalement, c'est comme si la peau déjà et le cerveau étaient touchés et étaient destinés à aller vers l'extérieur avec cette externalité. Et c'est le premier sens fonctionnel dans l'utérus, enfin, quand le bébé est dans le ventre de sa maman. Et il y a eu des expériences assez terribles dans les années 60, notamment avec Harry Harlow, un Américain, un psychologue, qui a travaillé sur des singes rhésus. Ce que Harlow faisait, c'est qu'il prenait des singes à la naissance et il les séparait de leur mère. Il les mettait en présence d'un substitut de mère qui était soit juste une nourricière avec une potence métallique, etc. Soit la même nourricière, mais cette fois-ci recouverte d'une couverture douce, épaisse. Et ce qu'il observe, c'est que le jeune singe va systématiquement toujours aller vers la mère douce, celle qui est recouverte de la couverture, même si c'est l'autre qui donne le biberon. En grandissant, ces singes-là, si on ne les redonne pas à leur mère, passer ce qu'on appelle une période critique, c'est-à-dire une période où après, ça ne pourra pas s'arranger, eh bien ces singes vont développer des comportements un peu autistiques, un repli sur eux, des comportements d'automutilation, et ils vont avoir un certain nombre de troubles, notamment ce qu'on appelle un axe hypothalamo-surrénalien hyperactif. Dit autrement, ils seront très sensibles au stress. ils seront tellement sensibles au stress que ce sont des singes qui vont vivre moins longtemps que les autres, mmh. quitte à développer aussi des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension essentielle, etc. Donc ça, c'était les expériences d'Arlo qui seraient bien évidemment impossibles à refaire aujourd'hui pour des raisons éthiques.
Mmh, bien sûr, bien sûr. Alors vous avez parlé aussi d'une autre expérience, mais cette fois, enfin d'une expérience, on peut dire une expérience sur un petit enfant.
Oui, alors on peut parler effectivement d'expérience, même si c'est une expérience malheureuse.
Oui.
C'est l'histoire du petit David Vetter qui est né en 1971 à Texas, au Texas, aux États-Unis, et il avait une insuffisance immunitaire congénitale, donc il n'avait pas d'anticorps dès la naissance. Il a été placé tout de suite dans une bulle stérile, mmh. en attendant qu'on trouve un donneur de greffe compatible. Le problème est que malgré une campagne américaine, puis une campagne mondiale, pendant des années, on n'a pas trouvé de donneur de greffe. Et donc le petit David a grandi comme ça dans cette bulle. Alors bien sûr, il était entouré de plein de gens, il était entouré de ses parents, il était entouré de psychologues, de médecins, d'infirmières, mais cet enfant n'a jamais eu le moindre contact physique. Jusqu'au jour où finalement, on a trouvé un donneur presque compatible, c'était sa sœur Catherine, et c'est à l'âge de 12 ans, donc imaginez pendant 12 ans dans cette bulle cet enfant, à l'âge de 12 ans, David s'est fait lui-même le greffon, et apparemment, la greffe a prise, dans les premiers temps, il va mieux. Résultat des courses, il sort enfin de la bulle, il est placé dans une chambre stérile, sa mère, sa sœur, son père peuvent venir le voir, et c'est la première fois que ses parents peuvent le toucher. Ses parents le touchent avec des gants, mais lui c'est la première fois qu'il a le contact, comme ça, physique sur la peau directement. Au début il trouve ça agréable, et puis au bout d'un moment, ce ne sont plus des chatouilles, ça devient des picotements, ça l'agace, il se met à pleurer, et il leur demande de sortir de la chambre. En fait cet enfant, ensuite, est mort parce qu'il a développé, sa sœur lui avait transmis le virus de la mononucléose alors qu'elle était porteuse saine, et donc il a développé un lymphome, un cancer de la lymphe, et il n'a pas survécu. Et l'histoire tragique du petit David nous a appris plusieurs choses. Elle nous a appris bien évidemment qu'on ne peut pas laisser longtemps des enfants dans des bulles, qu'il faut très vite trouver un donneur, et surtout elle nous a appris l'importance du contact physique pour le jeune enfant. C'est une expérience, mais une expérience malheureuse. À trop vouloir bien faire, on fait des carnages.
Oui, c'est sûr. Et à ce propos, d'ailleurs, vous m'avez parlé du syndrome de l'hospitalisme.
C'est assez lié. Le syndrome de l'hospitalisme a été identifié comme tel après les expériences sur les singes d'Arlo, qui est qu'on ne peut pas laisser un jeune enfant trop longtemps à l'hôpital, même s'il est entouré d'infirmières, de parents aimants, de personnel soignant, tout ce que vous voulez. Les jeunes enfants, on va dire entre 0 et 1 an, doivent rester le moins longtemps possible à l'hôpital, sinon ils vont développer des troubles qui peuvent être un petit peu durables dans le développement. Notamment une hypersensibilité au stress, des maladies auto-immunes plus facilement, et donc on limite au maximum de nos jours les temps d'hospitalisation. L'idéal, c'est qu'un enfant soit proche de sa mère, de son père, enfin qu'il soit proche de sa famille et dans un espace qu'il connaît pas, l'hôpital. Bien évidemment, il y a quand même des enfants qui restent hélas à l'hôpital.
Nécessité oblige quelquefois. Bon, alors j'ai dit que la peau est l'organe du toucher. Mais que capte-t-elle et comment le fait-elle ?
Alors, la peau est équipée de neurones, comme notre cerveau a des neurones. Et bien, la peau a des neurones particuliers qui sont ce qu'on appelle des neurones mécanosensibles. En fait, ils sont sensibles à des stimulus mécaniques, tels que des pressions fines, des vibrations. Et si l'intensité de pression, l'intensité de vibration est suffisante, eh bien, ces récepteurs se mettent à décharger, ils fabriquent de l'électricité. Cette électricité parcourt des nerfs, va dans la moelle épinière et ensuite jusqu'au cerveau. Et c'est ainsi que naissent les sensations tactiles.
Donc vous avez dit on capte la pression, on capte la température, on capte les vibrations, on peut reconnaître aussi des formes en touchant, on peut reconnaître aussi des formes.
Alors, on peut reconnaître des formes en touchant, mais pour reconnaître des formes en touchant, il faut qu'il y ait du mouvement. Et c'est toute la difficulté du toucher, c'est que le toucher n'existe que s'il y a du mouvement. Si vous avez perdu vos clés dans une poche, vous êtes obligé de toucher à l'intérieur de votre poche pour aller reconnaître ce qui est la clé, du briquet si vous êtes fumeur, etc., pour distinguer le tout. Le simple fait de poser votre main ne suffirait pas. Pour que vos récepteurs soient actifs, il faut qu'il y ait du mouvement. Et c'est bien toute la complexité de ce sens où il y a à la fois des vibrations, il y a à la fois des pressions, mais il y a aussi du mouvement. Et c'est ce mouvement-là qui va amener de l'information et qui va permettre au cerveau, qui est un organe complexe, de reconstruire complètement la forme d'un objet.
Alors, tous ces mécanos récepteurs sont-ils répartis uniformément dans le corps?
Alors, on en a sur toute la surface du corps, mais ils ne sont pas répartis de manière uniforme, et du coup la sensibilité tactile n'est pas uniforme sur tout le corps. Pour ce qui est des pressions fines, des vibrations, l'endroit le plus sensible, c'est bien évidemment la main, suivi de près de la bouche, des lèvres. Et l'endroit le moins sensible, c'est le milieu du dos. Pour situer l'extrême sensibilité de la main, on pourrait prendre l'exemple de la canne de l'aveugle. La canne de l'aveugle, ça n'est ni plus ni moins qu'une extension de la main. Qu'est-ce que fait la canne de l'aveugle? Elle transmet des vibrations, les vibrations du sol au contact, jusqu'à la paume de la main. Et dans la paume de la main, il y a des récepteurs spécialisés dans les vibrations qui sont extrêmement sensibles, qui ont un seuil de sensibilité très très bas, qu'on appelle les récepteurs de Pacini. Et c'est eux qui, en quelque sorte, vont faire une main géante à travers la canne, et c'est ainsi que l'aveugle perçoit son environnement à distance.
Très bien. Alors, on l'avait déjà vu dans des émissions précédentes, dans le cerveau, il y a une représentation aussi de ces capteurs, ça s'appelle l'homonculus, je crois.
C'est ça.
Et donc, les zones les plus, celles qui ont le plus de récepteurs sont celles qui occupent la plus grande place dans le cerveau, c'est ça ?
Sont celles qui occupent la plus grande place dans le cerveau, et quand on regarde des images de cet homonculus, alors c'est pas très pratique à la radio, mais il faut imaginer un bonhomme avec des lèvres disproportionnées et des mains disproportionnées, et notamment l'extrémité pouce index, la fameuse pince qui fait que nous sommes des primates particulièrement évolués. Alors quand je raconte ça aux étudiants, les étudiants comprennent assez vite pourquoi les mains, parce qu'on écrit, parce qu'on touche, etc. Avec les mains, ils ont plus de mal parfois avec la bouche. Certains me disent c'est pour manger. Je sais pas vous, moi j'ai pas encore dîné, mais c'est pas pour ça la plupart du temps. La plupart du temps, c'est tout simplement pour parler.
Oui.
Et parler, c'est un mouvement, et il y a des pressions, il y a des vibrations qui sont transmises sur les lèvres. Quand je bouge mes lèvres, quand il y a de l'air qui souffle, il y a des vibrations qui passent, et donc c'est pour ça que la bouche et les lèvres sont particulièrement sensibles. Ça a aussi un intérêt, si on revient au petit enfant, c'est que les deux premiers réflexes chez l'enfant sont des réflexes tactiles. Il y a le réflexe de succion, avec la bouche bien évidemment pour l'allaitement, mais pour aller attraper le sein de sa mère, l'enfant doit aussi s'agripper au sein, et c'est le réflexe d'agrippement. Le simple fait que quand on touche la main d'un bébé, il ferme systématiquement les doigts.
Oui, tout à fait.
Et bien tout ça, c'est lié au toucher, et effectivement c'est ce qui va façonner cet homoncule qui surreprésente finalement les lèvres et les mains, au détriment d'autres régions qui sont moins importantes pour nous, comme le milieu du dos ou les jambes.
Mais est-ce que les pieds sont très...
Les pieds sont très représentés parce que nous sommes des bipèdes et que nous avons besoin du sens tactile aussi au niveau des pieds pour marcher. Alors, vous allez me dire qu'on sait marcher, bien évidemment qu'on sait marcher. Nous, on arrive à marcher avec des chaussettes, avec des chaussures, c'est plus difficile pour les animaux. Mais est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir des fourmis dans les pieds? Vous allez toujours marcher, mais vous marchez déjà nettement moins bien. Vous avez l'impression que le sol se dérobe sous vos pas. Eh bien, là, vous comprenez l'importance des récepteurs du toucher, de la voûte plantaire, qui nous aide à garder l'équilibre. Et ça, c'était une émission de mon collègue Christophe Lopez sur la posture, il me semble bien.
Bien. Est-ce que tous les mécanorécepteurs ont la même fonction? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul type de mécanorécepteurs, ou est-ce qu'il y en a qui servent à ceci, d'autres à cela?
Au début du XXe siècle, il y avait encore ce qu'on appelle la théorie de la spécificité. Oui. On pensait qu'il y avait les cellules de Merkel pour les pressions fines, les corpuscules de Messner pour des vibrations fines, les corpuscules de Pacini pour des vibrations fines et grossières, et puis les cellules de Ruffini pour les étirements de la peau. Et à côté de ça, des récepteurs pour la température, le froid, le chaud, l'extrêmement froid, l'extrêmement chaud qui devient douloureux, et puis d'autres récepteurs qui sont des récepteurs de la douleur, on va dire, en quelque sorte, un peu spécifiques, qui sont capables de coder n'importe quoi pourvu que ça soit fort pour potentiellement provoquer une lésion. Aujourd'hui, on revient un petit peu sur cette théorie de la spécificité. Bien évidemment que les corpuscules de Pacini dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils aiment bien les vibrations,
oui,
mais ils sont un petit peu sensibles aux pressions, pas énormément, mais un petit peu quand même. Et puis les corpuscules de Ruffini, qui sont sensibles plutôt aux étirements de la peau, ils savent aussi très bien encoder les vibrations. Donc on revient quand même un petit peu sur cette théorie de la spécificité. Mmh.
Et au niveau des transmissions, il y a des nerfs spécialisés pour transmettre la douleur et puis d'autres pour la température, ou bien ça se fait un peu, je sais pas comment.
Alors, il y a tout ce qui est, on va dire, le toucher fin,
oui,
ça passe par des câbles électriques, hein, puisque c'est de l'électricité, oui, ni plus ni moins. Peut-être qu'on l'entendra d'ailleurs tout à l'heure, cette électricité.
Oui. Vous nous le ferez écouter quand vous voudrez.
Bon, dans pas très longtemps.
D'accord.
Là, ce sont des câbles électriques de gros diamètre,
oui,
qui transmettent vite l'information. Et ça va passer par une certaine région de la moelle épinière, mmh, pour arriver au cortex somesthésique, notamment, mmh, qui est la zone centrale de traitement là-haut dans le cerveau. Pour ce qui est de la sensibilité à la température, des sensibilités à la douleur, ça passe par soit des câbles électriques un peu moins épais, donc, mmh, avec une vitesse de conduction plus lente, soit par des fibres très fines. Et là, ça passe par d'autres régions de la moelle épinière. Mmh. Ça arrive toujours à peu près au même endroit au cerveau, mais ça va aussi aller vers d'autres endroits du cerveau. Donc il y a des voies quand même relativement spécifiques. Et il y a des pathologies où on peut avoir une atteinte du toucher fin sans avoir atteinte des voies de la douleur ou de la température. Ou à l'inverse, des pathologies où on va avoir une atteinte des voies de la température et de la douleur, alors que le toucher fin, lui, sera plus ou moins épargné.
Bien. Alors, dans les papiers que vous m'avez passés, j'ai lu quelque chose de fort intéressant. C'est on parle donc des empreintes digitales. Et il est écrit qu'il y a deux interprétations, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr des choses. J'aimerais bien que vous nous en parliez.
Alors, les empreintes digitales, ça a toujours été quelque chose d'un petit peu fascinant. D'abord parce que elles sont uniques. Et oui, c'est bien ce qui a aidé la police à développer ce système pour nous identifier. Et puis, si vous vous faites une petite lésion sur le doigt, les empreintes repoussent à l'identique. Mm-hmm. Donc, elles sont programmées génétiquement pour qu'on ait ces empreintes-là. La première fonction pendant longtemps à laquelle on a cru était celle un petit peu des sculptures sur les pneumatiques de voiture, qui était l'idée que ça pouvait chasser l'eau quand on est en train de manipuler des objets. Et du coup, augmenter l'adhérence. Mmh. Alors, cette fonction-là, elle n'est pas remise en cause aujourd'hui. Tout le monde pense que c'est possible. Mais il y a d'autres hypothèses qui sont avancées, et notamment des hypothèses que nous sommes en train de tester avec des collègues physiciens de Paris, qui seraient que les empreintes digitales seraient en fait un système d'amplification des vibrations. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, le toucher, ce sont des pressions et des vibrations.
Des vibrations, oui.
Eh bien, il faut imaginer les empreintes un petit peu comme la peau d'un tambour qu'on aurait tendue. La peau d'un tambour, quand elle est tendue, transmet très bien les vibrations.
Oui.
Eh bien, les empreintes auront un petit peu ce même rôle d'aller augmenter finalement la transmission de certaines vibrations dans des plages de fréquences très précises et du coup de nous rendre plus sensibles au toucher. Mmh. Et c'est pas un hasard du coup si on en a essentiellement à l'extrémité des doigts.
Mmh. C'est donc un filtre actif, quoi.
C'est un filtre actif et un, mmh, filtre qui, une fois de plus, ne va marcher que parce qu'il y aura du mouvement.
Oui.
Voilà.
Alors, vous avez, j'ai lu que cette expérience qui a été faite, cette découverte par cette hypothèse, je veux dire, par des physiciens de Normal Sup, je crois, vous a intéressé. Vous avez voulu en éprouver cette hypothèse et vous avez travaillé là-dessus. Qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, c'est eux qui sont venus me voir en me disant, voilà, nous on a développé un modèle de peau physicien, mmh, où on trouve que les empreintes servent à mieux transmettre les vibrations et on aimerait bien que tu le testes chez l'humain. Et à cette époque-là, j'enregistrais des récepteurs du toucher uniquement au niveau de la jambe. Donc, oui, j'étais bien embêté parce qu'il n'y a pas beaucoup d'empreintes sur la jambe. Et je leur ai dit, écoutez, ça tombe bien parce que moi, j'aimerais bien passer à la main. Et donc, ça sera l'occasion de passer à la main. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une expérience électrophysiologique qui s'appelle la micro-neurographie, au niveau d'un nerf qui innerve la main, qui s'appelle le nerf médian, afin de pouvoir enregistrer la réponse de récepteur du toucher à différentes textures, plus ou moins granuleuses, dans des zones où il y a des empreintes, dans des zones où il y a moins d'empreintes, et on compare la réponse. Donc ce sont des expériences en cours, je pourrais pas en dire beaucoup plus pour l'instant. Mais tout au plus, peut-être, ça serait le moment
d'écouter. Alors on va demander à notre chère technicienne de nous faire écouter justement
un récepteur du toucher.
Donc, voilà. Voilà, c'était très court, mais alors j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce qu'on a entendu.
Alors, ce qu'on a entendu, c'est finalement ce qui arrive à votre cerveau à chaque instant, comme à l'instant précis, vous êtes en train de vous toucher les cheveux. mais je pense que ça fait moins de bruit dans le cerveau quand même. c'est la réponse d'un récepteur de Pacini, ce dont on parlait tout à l'heure, là, vous savez, les récepteurs aux vibrations, qui étaient situés à l'extrémité d'un doigt. Et quand on va... passer un pinceau sur la zone de peau qui est innervée par ce récepteur.
Oui.
Et à chaque fois qu'on va passer le pinceau sur cette petite zone de peau, on va entendre ra, le fameux bruit qu'on a entendu, qui sont ce qu'on appelle des potentiels d'action. C'est ça le message électrique que moi j'enregistre avec ma micro-électrode.
Quand vous dites on entend, pardon, quand vous dites on entend, c'est pas le bruit du pinceau, c'est le nerf qui fait.
C'est le nerf, ce qu'on a entendu, c'est le message électrique du nerf. Donc comment on s'y prend? Eh bien, on met une micro-électrode très fine qui fait 5 micromètres de diamètre, donc 5 millièmes de millimètre, à proximité d'une seule fibre qui provient d'un seul récepteur qui est situé, de préférence à l'instant précis, au bout du doigt. On est exactement dans la même situation qu'à la radio, à l'instant précis. Il faut que nos bouches soient près du micro pour que les gens nous entendent. Et bien là, il faut que ma microélectrode soit près d'une seule fibre, et la plus proche possible de cette seule fibre-là, pour que je capte l'électricité de cette seule fibre. Et je donne souvent aux étudiants l'image du Conseil des ministres et tous les journalistes qui tendent leur perche, vous savez, à la sortie du Conseil des ministres. Ils jouent des coudes les uns des autres pour être le plus proche possible de la bouche du porte-parole du gouvernement. Nous, c'est la même chose. Alors, il n'y a personne qui nous pousse quand on fait l'expérience. Mais par contre, c'est la peau qui nous pousse, parce que la peau, elle est là pour défendre l'organisme. Et elle aime pas trop qu'il y ait une micro-électrode. Donc, la peau a tendance, du fait qu'elle est élastique, à repousser l'électrode. Et il faut que nous, on arrive suffisamment près de cette seule fibre pour aller capter le message électrique que fabrique un récepteur du toucher quand on le stimule. Et si vous avez bien entendu tout à l'heure le petit extrait de film, à un moment j'ai dit « souffle » à ma collaboratrice. Alors, c'était juste pour vous montrer à quel point ces récepteurs sont sensibles. Eh bien, le récepteur répond à un simple jet d'air. Il suffit de souffler sur la zone de peau pour que le récepteur fabrique de l'électricité. On comprend mieux l'histoire de la canne de l'aveugle tout à l'heure.
Et ces expériences-là, elles sont reproductibles? On a les mêmes signaux à chaque fois
On a, si on est dans des bonnes conditions, on a pratiquement les mêmes signaux à chaque fois. Nous sommes tous équipés des mêmes types de récepteurs. Et nous, on travaille sur la fibre. On oublie presque parfois qu'il y a un sujet au bout. Et non, elles sont reproductibles. Par contre, elles sont délicates. Il y a un gros taux d'échec parce que vous imaginez bien qu'on va à la pêche à la ligne et que c'est difficile de s'approcher avec notre microélectrode qui est très fine d'une fibre qui, somme toute, est très fine aussi puisqu'elle fait entre 6 et 12 micromètres de diamètre.
Comment vous faites ça, comment c'est de la technique ça
C'est de la technique. Comment... On y va par petites poussées manuelles. Il faut pas boire trop de café avant. Et puis c'est un petit peu d'expérience et c'est beaucoup de patience, surtout accepter qu'il y a pas mal d'échecs. Mais d'un autre côté, quand on arrive à entendre finalement ce signal électrique, c'est aussi une récompense.
Bien sûr, bien sûr. Et bon, on ne peut pas le montrer à la radio, mais je l'ai vu, vous me l'avez montré, c'était l'image, l'enregistrement. Est-ce que la forme d'onde qu'on obtient est significative de quelque chose?
La forme de l'onde est significative qu'on a affaire à une fibre de gros diamètre. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Les récepteurs du toucher fin, ils sont reliés à des câbles électriques de gros diamètre, qu'on appelle des fibres myélinisées. Et c'est ce qui donne cette forme qu'on dit en deux phases. Il y a une onde positive et une onde négative. Et ça commence toujours par l'onde positive. Quand on enregistre des fibres sans myéline, donc des fibres de petit diamètre, dont on parlera sans doute tout à l'heure, les fibres de la douleur ou d'autres types de fibres, eh bien, à ce moment-là, on a d'abord une petite onde négative et ensuite une petite onde positive. Donc pour nous, c'est un critère d'identification. Et c'est aussi un critère pour les médecins. ça peut signer des neuropathies. Selon si la forme de l'onde change, eh bien, il peut y avoir des processus de pathologiques, qu'on appelle des dégénérescences neuropathiques, et qui arrivent par exemple chez le diabétique, chez l'alcoolique chronique, etc.
Bien, alors, lorsque vous m'avez parlé de cette expérience, vous m'avez parlé des fibres de la chatouille, et vous m'avez aussi parlé de Ginette. Alors, je vous laisse en parler.
Les fibres de la chatouille. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des récepteurs spécifiques pour la douleur, et qui sont des petites fibres, donc qui conduisent lentement l'électricité. Pendant longtemps, il y a longtemps, dans les années 40, on a découvert qu'il y avait aussi d'autres petites fibres comme ça, à conduction lente, qui ne codaient absolument pas des stimulus qui étaient capables de déclencher des sensations de douleur, mais au contraire, qui pouvaient être activées par de simples caresses. Et à l'époque, le chercheur qui avait trouvé ça, Zotterman, pensait que c'était les récepteurs des chatouilles. Alors c'est intéressant, somme toute, chez les mammifères d'avoir des chatouilles, parce que dans le rôle finalement des chatouilles, il y a l'idée que ça correspondrait un peu à l'épouillage chez nos cousins primates, donc un moyen finalement de se retrouver ensemble. Le problème de Zotterman, c'est qu'il a trouvé ça chez le chat, et moi j'ai deux chats, mais je les ai jamais vus chatouiller. Deuxième problème aussi, c'est que on n'en a pas ces fibres-là, on n'en trouve pas sous les pieds. Et on n'en trouve que dans les zones poilues.
Oui.
Et je ne sais pas vous, mais moi je vous assure que je n'ai pas de poils sous les pieds. Et pourtant, j'y suis extrêmement chatouilleux.
Ah bon ?
Donc, ça ne pouvait pas être les fibres des chatouilles. Et pendant longtemps, ces fibres-là sont restées un petit peu énigmatiques. On ne savait pas très bien à quoi elles servaient, jusqu'à une découverte grâce à la fameuse Ginette. Alors, Ginette est une patiente qui est atteinte d'une maladie rare, une maladie auto-immune, qui s'appelle la polyradiculonévrite sensitive. Dit comme ça, ça a l'air terrible. Mais il n'y a que deux personnes atteintes dans le monde, donc on a peu de chances d'être atteints, hein, vous et moi. C'est une maladie auto-immune dans laquelle les anticorps deviennent fous, et en quelques jours, ils ne vont plus reconnaître comme étant éléments de soi les fibres sensorielles de gros diamètre, celles qui proviennent notamment des récepteurs du toucher. Mmh. Et donc, en quelques jours, Ginette a perdu le sens du toucher fin, dont on parlait tout à l'heure, les récepteurs de Pacini, de Merkel, de Ruffini, de Messner. Mais elle n'a pas tout perdu. Elle a gardé toutes les fibres de petit diamètre. Celles-là, elles n'ont pas été touchées. Et lors d'une... Ginette est devenue sujet d'expérience professionnelle.
Bien sûr.
Elle fait des tournées, elle va de laboratoire en laboratoire, elle est payée pour ça. Bon, elle est moins chère que les Rolling Stones, mais elle fait vraiment des tournées comme eux. Et un soir au restaurant, elle raconte à des collègues chercheurs qu'elle aimait bien, après une journée d'expérience, quand son mari était là, qu'il la masse. Et donc les chercheurs sont surpris en lui disant « Mais Ginette, t'as plus de récepteurs du toucher, ça rime à rien qu'on te masse. » Et là, un chercheur lui dit « Mais est-ce que tu voudrais bien mimer le massage, s'il te plaît ?» Et ce qu'elle fait ressemble étonnamment à des caresses. Et là, ils ont fait une biopsie de peau. Mmh. Ils ont trouvé des récepteurs reliés à ces petites fibres C, ces fibres de petit diamètre. Ces récepteurs-là, ils ont réussi à les activer, à les enregistrer en micro-ondographie, comme je vous ai fait entendre tout à l'heure, et ils ont vu que c'était des récepteurs qui étaient activés uniquement lorsqu'on balayait la peau avec un pinceau, lorsqu'on caressait la peau. Et ils sont ensuite allés faire des enregistrements en IRM fonctionnel pour voir quelles étaient les zones du cerveau activées chez Ginette, et ont retrouvé eh bien, des mêmes zones que chez des sujets sains, tels que l'insula, le cortex singulaire antérieur, etc. Des zones qui sont connues pour être activées, notamment lors de stimulus, on va dire, agréables, surtout l'insula. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a découvert donc les récepteurs à la caresse grâce à Ginette, qui n'avait plus que ces récepteurs-là, qui n'avait pas les autres récepteurs.
Donc si on la pinçait, elle ne sentait rien, mais si on la,
On la pince doucement, elle sent rien. Si on la pince fortement, là elle va sentir, parce qu'il y a toujours les récepteurs de la douleur qui sont actifs.
Oui, mais c'est essentiellement la caresse fine qu'elle va ressentir.
C'est la caresse fine qu'elle ressent, et cette caresse fine, je pense qu'on sera peut-être amené à reparler de ces récepteurs de la caresse et de ce qu'ils font, mais la caresse fait du bien, il n'y a pas de doute.
Alors justement, j'aimerais qu'on parle de l'utilité de toucher en tant que lien social, parce que c'est très important, ça.
Quand on active les récepteurs de la caresse, justement, il va y avoir un certain nombre de réactions hormonales qui vont se passer, et il y aura notamment libération d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, c'est l'hormone aussi. Cette ocytocine, elle va faire que vous allez envie d'aller vers les autres. Donc finalement, si vous êtes en train de caresser votre proche, eh bien votre proche va avoir envie d'aller vers vous, et peut-être qu'il aura envie de vous caresser. Ça renvoie à une des premières citations que vous avez citées en début d'expérience, que un peu la caresse reflet finalement. Oui. Le toucher est un sens réciproque. Si je vous touche, vous allez ressentir, mais moi aussi je vais ressentir que je vous touche. Mmh. Et grâce à ces récepteurs de la caresse, eh bien, on va augmenter les interactions sociales. Ça a été très bien montré chez des rats. Chez des rats, vous prenez deux rats mâles, qui se connaissent pas, et même s'ils se connaissent, de toute façon c'est pas très grave, vous les mettez dans une cage, a priori ils vont avoir tendance à se battre. Si maintenant vous leur massez l'abdomen pendant quelques minutes avant la rencontre, vous allez activer ces fameux récepteurs de la caresse, il va y avoir libération d'ocytocine dans le sang, et les deux rats vont faire ce qu'on appelle du grooming, ils vont venir se renifler l'un l'autre sans se battre.
Ah oui, mmh. Donc c'est d'où l'importance de la caresse, c'est sûr, c'est sûr. Caresse et émotion, il y a des liens entre ces deux?
Très clairement, la caresse donne du plaisir, parce qu'il va y avoir libération d'ocytocine, mais il va aussi y avoir libération d'endomorphines, les morphines endogènes, les morphines que fabrique notre propre cerveau. Et les caresses sont un élément indiscutable des relations sexuelles, par exemple.
Eh oui. Bon, on se fait une petite pause musicale.
Qui sera
alors sûrement. On va écouter quoi maintenant? Vous avez choisi un deuxième.
Une berceuse.
Une berceuse. Oh, ça va bien avec des caresses.
Eh oui.
Vêtu d'un rayon de soleil, qu'un coton blanc par instant voile, comme un pinceau sur la toile, rien que l'air vous fait frémir. Il était un petit navire qui connaissait rien aux étoiles. Il était un petit amiral qui sentait pas le vent venir. Dormez, 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 tout tremble et vous rêvez. C'est la fin d'un jour d'été, dans l'incendie le soleil part, il va vous laisser dans le noir, et le noir, ça fait grandir. Il était un petit navire qui connaissait rien aux étoiles. Il était un petit amiral qui sentait pas le vent grossir. Dormez. Dormez, dormez, tout tremble et vous rêvez. Dormez, dormez. et vous rêvez.
Merci pour ce choix, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, en écoutant ça, que les caresses se sont transformées en musique? En tout cas, moi, j'ai cette impression de recevoir des caresses musicales.
Et ouais, la berceuse était un exercice complet, j'ai envie de dire. C'est un exercice complet parce qu'il y, y avait le son,
oui,
pour nous. Et quand on berce un enfant, on le love contre soi, il y a donc le toucher qui est activé. Et puis, il y a ce mouvement de balancement lié au fait de bercer l'enfant et qui nous rappelle une fois de plus que le toucher n'est rien sans le mouvement. C'est pour ça que j'ai choisi cette berceuse aussi, parce que je dois dire que j'aime bien Julien Clerc. Et puis le thème musical est inspiré du prélude en do de Bach, que j'aime bien aussi. Et puis il y a des jolies paroles de Maxime Le Forestier. Et ça nous amène finalement effectivement à cette histoire de caresses et d'émotion.
Oui. Oui.
Dont on peut parler un petit peu si.
Allez-y.
Si vous voulez.
Oui, bien sûr, avec plaisir.
Le lien entre le toucher et l'émotion, c'est un lien symbolique déjà, hein, quand on dit de quelqu'un il m'a touché. Et puis ça va plus loin. Actuellement, on a des recherches en cours au laboratoire où on essaie de voir si les émotions induites en stimulant les récepteurs de la caresse, avec on caresse pas nos sujets, hein, je le dis tout de suite.
Avec des pinceaux.
Avec des pinceaux doux. Nous avons investi dans un pinceau à maquillage d'une très grande marque qui est très doux. Et donc on balaye avec un pinceau doux la peau des sujets pour activer les récepteurs aux caresses, et on observe une réponse qu'on appelle une réponse neurovégétative, c'est-à-dire une réponse involontaire du sujet, qui est que la sudation augmente dans la paume des mains. En gros, les sujets ont les mains moites.
Oui.
Et ça, c'est tout à fait classique, hein, on le sait, quand on est ému, on a les mains moites. C'est le principe du détecteur de mensonges, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Bon, pas très efficace en soi, parce qu'on peut mentir à un détecteur de mensonges, mais en tout cas, quand on est ému, on a forcément les mains moites. Et on va aller enregistrer les mécanorécepteurs dont on parlait tout à l'heure, les récepteurs du toucher,
oui,
en réponse à des substrats, du papier de verre plus ou moins granuleux, lorsque les sujets ne sont pas émus, et lorsqu'ils sont émus et qu'ils ont les mains moites. Et ce qu'on est en train de montrer, c'est que l'humidité de la peau changeant, eh bien la réponse des récepteurs change, elle est augmentée. Finalement, l'idée que quand on est ému et qu'on a les mains moites, c'est qu'on serait peut-être amené à mieux ressentir l'autre, à aller vers plus de contact de l'autre. Donc ce sont des expériences qui sont en cours, je peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant, on a une petite population de récepteurs, mais si ça continue comme ça, on sera content. Et apparemment, ça change aussi la perception qu'on a le sujet, ça sont d'autres expériences plus anciennes de psychophysique, qui donc là, on s'intéresse à ce que le sujet ressent cette fois-ci, pas à la façon dont les récepteurs déchargent, qui ont montré que quand on est ému, quand on a de l'humidité au niveau des doigts, eh bien les doigts sont plus sensibles à des petites pressions fines calibrées.
Les récepteurs sont... Ah oui, d'accord.
Les récepteurs, quand on fait de la psychophysique, on peut pas dire est-ce que c'est le récepteur qui est plus sensible ou est-ce que c'est le cerveau qui est plus sensible.
Ah oui, exact.
Parce que on a juste la sensation du sujet qui dit je sens, je sens pas.
Oui.
Donc à cette époque-là, il y avait deux hypothèses avancées qui étaient de dire que le cerveau, lui, est plus sensible. Il y aurait un phénomène d'amplification, de gain, si vous voulez. Et puis, nous, on est en train d'essayer d'éprouver une autre hypothèse qui est de dire que dès la périphérie, les récepteurs eux-mêmes sont plus sensibles parce qu'on a changé en quelque sorte la compliance de la peau qui est l'élément qui porte ces récepteurs.
Mais est-ce qu'on peut mesurer ce flux nerveux pour voir s'il est plus important dans le cadre d'une émotion ou pas?
C'est ce qu'on essaie de faire actuellement. On essaie de, si on regarde la réponse à un papier de verre, on va dire de 600 microgrammes, on regarde la réponse d'un mécanorécepteur bien précis, lorsque le sujet n'est pas ému, et puis on commence à balayer la peau du sujet. À ce moment-là, il y a augmentation de l'humidité au niveau du champ récepteur, et on regarde si la réponse du récepteur est changée, et ce qu'on trouve en général, c'est une augmentation de réponse. Donc le récepteur devient plus sensible pour la même stimulation appliquée.
Juste une petite question encore. Vous avez parlé donc de sudation de la main, du fait de notre émotion. Il faut bien distinguer cette sudation de la sudation, par exemple, si on fait un exercice physique, il va nous faire... Et dans ce cas-là, on n'est pas dans l'émotion et on n'a pas les mêmes réactions.
Ouais. La sudation, quand on fait un exercice physique, c'est dépend d'autres voies nerveuses, d'autres régions du cerveau, et c'est ce qu'on appelle un phénomène de thermorégulation. Ça sert à évacuer la chaleur qui a été produite notamment par les muscles, et ça sert aussi à évacuer les toxines. C'est pour ça que la transpiration ne sent pas bon, c'est que ça permet d'évacuer un certain nombre de toxines.
Voilà. Okay.
Donc on n'est pas du tout sur la même, effectivement, sueur,
exactement,
j'ai envie de dire.
Bon, je voulais bien l'entendre. Alors là, il nous reste plus qu'une dizaine de minutes, et encore, j'ai des petites questions comme ça. Quand j'ai fait l'émission avec Christophe, on a parlé donc d'illusions. Est-ce qu'il existe des illusions au niveau du toucher ?
Il y a plusieurs illusions qui existent au niveau du toucher. On retrouve un certain nombre d'illusions visuelles, comme ce qu'on appelle l'illusion d'Ebbinghaus, qui est que si vous touchez un objet d'une certaine taille, selon comment il est entouré, vous allez le percevoir plus ou moins gros. On peut aussi déclencher des illusions de mouvement à partir du toucher. Typiquement, si je vous demande de fermer les yeux, que vous êtes bien détendu et que je remonte délicatement votre chemise, vous pouvez avoir l'illusion que votre bras se tend. Voilà. D'autres illusions encore comme ça. Après, il y a des tests aussi classiques en psychophysique pour évaluer la sensibilité, qui est que, en certaines régions du corps, on vient avec un compas à deux points de vous toucher et à un moment, on n'allait plus sentir qu'une pointe, parce que on a atteint les limites de discrimination tactile. Oui. Ça, c'est un test classiquement utilisé, mais quelque part, c'est aussi une illusion.
Pourquoi des gens sont plus sensibles et d'autres moins sensibles aux caresses, par exemple? Il y en a qui aiment beaucoup les caresses, puis d'autres qui ne peuvent pas les supporter.
Alors, il y a des. À ce jour, on ne sait pas encore si la densité en récepteur de la caresse pourrait changer selon les individus. Ce qu'on sait, c'est que la réponse de certaines zones cérébrales à ces caresses-là peut changer selon certains individus. Il commence à y avoir quelques données chez les enfants autistes, il y a quelques données chez les schizophrènes, c'est très fragmentaire encore, mais ça peut changer. Et puis ensuite, il y a aussi des mécanismes modulateurs chez tout un chacun d'entre nous. Si je me mets à vous chatouiller, vous n'allez pas aimer, parce qu'a priori, j'ai aucune raison de le faire. Si c'est votre chair et tendre qui le fait, là, ça aura un autre effet. Donc vous voyez que le même message va déclencher la même réponse des récepteurs à la périphérie, ce que moi j'enregistre, mais par contre, au niveau cérébral, et finalement c'est ce que le sujet ressent qui est important, déclenchera des sensations totalement différentes.
Bon, ça rejoint une des questions que je voulais vous poser, mais vous avez répondu, c'est que l'interaction toucheur-touché intervient dans le ressenti, quoi. Bon, alors, est-ce qu'on peut affiner notre sens tactile ?
Vraisemblablement, oui. Quelques expériences montrent des effets d'entraînement possibles et on a des travaux en cours pour concevoir des outils d'entraînement à destination des patients atteints de diabète notamment. Vraisemblablement, oui. Il y a des expériences chez les aveugles aussi, il y a un peu de littérature chez les aveugles qui ont un sens du toucher plus développé, les aveugles de naissance. Sans doute ça se passe plus au niveau du cerveau, qu'au niveau de la peau.
Très bien. Alors, il va nous rester quelques minutes et je voudrais vous demander quelques informations. J'ai lu que certaines entreprises, certaines sociétés de recherche essayaient de fabriquer des tissus avec des capteurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ?
On peut dire que c'est en cours. De là à dire qu'on a fabriqué une peau artificielle, c'est sans doute exagéré. La peau est difficile parce que, comme on le disait tout à l'heure, il faut distinguer l'information provoquée par la texture que vous êtes en train d'explorer des informations provoquées par le mouvement exploratoire que vous faites. Et ensuite, il faut intégrer tout ça pour redonner une forme à un objet. Et ça, des capteurs artificiels, à l'instant précis, ne savent pas le faire. C'est le gros souci qu'ont les prothèses de main actuellement, c'est que elles peuvent donner un minimum de sensibilité, elles peuvent donner un minimum de mouvement, mais elles restent quand même très nettement en deçà des capacités naturelles de l'humain. C'est pas si mal finalement, tant qu'on a des mains.
Est-ce qu'on est optimiste sur le fait d'arriver à un tissu comme la peau ou c'est vraiment du très lointain ?
Non, je pense que non, les choses avancent, ça va. Ce sont des recherches qui sont forcément pluridisciplinaires. Je parlais tout à l'heure de recherches avec les physiciens. Mmh. Il y a des recherches aussi avec les informaticiens. On est obligé de faire de la recherche pluridisciplinaire pour arriver à ce genre de résultats, mais on peut être optimiste. Je pense pas qu'on pourra appareiller demain tous les amputés des mains. Ça, mmh. D'abord parce que ce serait des prothèses absolument hors de prix. Il faut bien voir qu'à l'instant précis, il y a le coût. Mmh. Mais non, d'ici... Je sais pas, j'arrive pas à donner de temps, mais d'ici quelques années, oui, on devrait quand même progresser.
Bon, eh bien, Jean-Marc et Monetti, je vous remercie beaucoup, on a appris beaucoup de choses.
Merci
vous nous avez consacré beaucoup de temps, et je pense que nos auditeurs ont été très intéressés. Merci d'être venu ce soir nous parler du sens du toucher. Bonsoir.
Bonsoir,
Radio chers Gif. Auditeurs, bonsoir et à la semaine prochaine.
C'était Judaïsme Pluriel, chaque mercredi de 20h à 21h. Merci, bonsoir et à la semaine prochaine.